Le chemin de Paris.
Qu'il sonne clair sous le fer des chevaux le sol des routes françaises. Quelle musique heureuse produisait le crissement du gravier. Et l'air qu'on respirait, l'air léger du matin traversé de soleil, quel merveilleux parfum, quelle merveilleuse saveur il possédait. Les bourgeons commençaient à s'ouvrir, et de petites feuilles vertes, tendres et plissées, venaient chercher pour une caresse le front des voyageurs jusqu'au milieu du chemin. L'herbe des talus et des prés d'Île-de-France était moins riche, moins fournie sans doute que l'herbe d'Angleterre, mais pour la reine Isabelle, c'était l'herbe de la liberté, enfin, et de l'espérance. La crinière de la jument blanche ondulait au rythme de la marche. Une litière portée par deux mules suivait à quelques toises. La reine, trop heureuse, trop impatiente pour rester enfermée dans cette balancelle, avait préféré monter sa hacknée. Pour un peu, elle eût galopé dans les herbages. Boulogne, où elle s'était mariée 15 ans auparavant, Montreuil, Abbeville, Beauvais avaient été les haltes de son voyage. Elle venait de passer la nuit précédente à Maubuisson, près de Pontoise, dans le manoir royal où, pour la dernière fois, elle avait vu son père Philippe le Bel. Sa route était comme un pèlerinage à travers son propre passé. Il lui semblait remonter les étapes de sa vie pour revenir au départ, mais 15 années malheureuses se pouvaient-elles abolir. « Votre frère Charles l'aurait sans doute reprise, » disait Robert d'Artois qui cheminait à côté d'elle. Et il nous l'aurait imposé pour reine, tant il continuait de la regretter, tant il montait peu de décision au choix d'une nouvelle épouse. De qui parlait Robert? Ah oui, de Blanche de Bourgogne. Il en parlait à cause de Maubuisson, où, tout à l'heure, une cavalcade composée d'Henri de Sully, de Jean de Roy, du comte de Kent, de Lord Mortimer, de Robert d'Artois lui-même et de toute une troupe de seigneurs, était venue accueillir la voyageuse. Isabelle avait éprouvé un grand plaisir à se sentir de nouveau traitée en reine. Je crois que Charles vraiment prenait quelque plaisir secret à se caresser les cornes qu'elle lui avait plantées, continuait Robert. Par malheur, par bonheur plutôt, la douce Blanche, l'année avant que Charles devint roi, se fit engrosser en sa prison par le geôlier. Le géant chevauchait à gauche du côté du soleil et monté sur un immense percheron pommelé, il portait de l'ombre sur la reine. Celle-ci poussait sa hacknée, s'efforçant de rester dans la lumière. Robert discourait sans trêve, tout à l'enthousiasme de la retrouvaille et cherchant dès ses premiers lieux à renouer les liens de cousinage et d'une ancienne amitié. Isabelle ne l'avait pas revu depuis 11 ans. Il avait peu changé. La voix était toujours la même et toujours la même aussi cette odeur de gros mangeur de venaison que son corps dégageait dans l'animation de la marche et que la brise portait autour de lui par bouffées. Il avait la main rousse et velue jusqu'à l'ongle, le regard méchant même lorsqu'il croyait le faire aimable, la panse dilatée par-dessus sa ceinture comme s'il eût avalé une cloche. Mais l'assurance de sa parole et de ses gestes était à présent moins feinte et appartenait définitivement à sa nature. La ride qui encadrait la bouche s'était inscrite plus profondément dans la graisse. « Eh, Mao, ma bonne gueuse de tante, a dû se résigner à l'annulation du mariage de sa fille. Oh, non sans se débattre et plaider devant les évêques. » Mais elle a finalement été confondue. Votre frère Charles, pour une fois, s'obstina parce qu'il ne pardonnait pas l'affaire du geôlier et de la grossesse. Et quand il s'obstine, ce faible homme, on ne le fait plus démordre. Au procès d'annulation, on n'a pas posé moins de 31 questions aux témoins. On a exhumé de la poussière la dispense accordée par Clément V et qui permettait à Charles d'épouser une de ses parentes, mais sans que le nom en soit spécifié. Or, qui dans nos familles se marie autrement qu'avec une cousine ou une nièce? Alors Monseigneur Jean de Marigny, bien habilement, souleva l'empêchement de la parenté spirituelle. Mao était la marraine de Charles. Elle assurait que non, bien sûr, et qu'elle n'avait été au baptême que comme assistante et comme mère. Alors tout le monde a comparu, baron, chambrier, valet clerc, chantre, bourgeois de Creil, où le baptême avait eu lieu. Et tous ont répondu qu'elle avait bien tenu l'enfant pour le tendre ensuite à Charles de Valois, et qu'on ne pouvait s'y tromper vu qu'elle était la plus haute femme qui se trouvait en la chapelle et dépassait tout un chacun du chef. Voyez la belle menteuse.